I knew a man, Bojangles, and he danced for you.
Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Calade. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Vagabondage. En fin d'émission, nous retrouverons Bertrand Lamure à la librairie des Marais pour ses coups de cœur du libraire. Je suis heureux de vous proposer aujourd'hui un documentaire consacré à la cueillette sauvage réalisé ce printemps dans le Haut-Beaujolais. Cueillette sauvage dans le Haut-Beaujolais. De tout temps, les hommes et les femmes ont développé un savoir sur les plantes pour se nourrir et pour se soigner. Ces savoirs, transmis de génération en génération, le plus souvent de génération de femmes en génération de femmes, ont été confisqués et se sont peu à peu perdus. Aujourd'hui, alors qu'elle est menacée comme jamais, la nature retrouve l'intérêt de plus en plus de personnes qui ressentent le besoin de renouer avec elle. Les savoirs anciens reviennent et répondent aux aspirations de manger sainement et de se soigner naturellement. Dans le Haut-Beaujolais, un groupe de femmes fait vivre ces savoirs et se retrouve régulièrement pour des cueillettes dans les bois ou dans les prés et pour transformer les plantes. Invitée à participer à une cueillette de bourgeons d'aubépine sur les hauteurs d'Ouroux, la journée commence par une cueillette matinale dans les bois pour trouver de quoi manger le midi. Nous nous retrouvons ensuite dans la cuisine de Claire pour préparer les plantes sauvages cueillies le matin même.
Donc lait, farine, œuf.
Ouais, ça c'est la crêpe.
Ils sont rigolos.
Est-ce qu'on met des épices dedans?
Non.
Nature. La malade.
Bon. Elles sont déjà dans l'eau, les asperges ?
Elles sont déjà, oui, mais elles n'ont pas cuit encore.
Vous avez trouvé des asperges ?
Ce sont des asperges sauvages. Ça n'a rien à voir avec des asperges, si ce n'est que c'est une plante qui ressemble à un petit épi de blé pas mûr, qui est très tendre, qui a un goût de petits pois crus quand on les mange crus, et qui se font cuire à la vapeur très légèrement. Et le véritable nom, c'est ornithogale.
Et on trouve ça dans quel type d'endroit, alors ?
On trouve ça bien souvent aux mêmes endroits, aux endroits où pousse l'ail des ours. Et je pense que c'est la nature du terrain, c'est certainement calcaire, argilo-calcaire plutôt. Ça ne pousse pas en terrain acide.
D'accord.
Voilà.
Et ça se mange après comme des asperges.
Et après, ça se mange comme des asperges. On peut les manger tièdes ou refroidies, peut-être avec une petite mayonnaise ou ce qu'on veut. Hein. On peut les accommoder comme on veut. C'est très tendre et très savoureux, très fin en goût.
Qu'est-ce que vous avez ramassé alors pour la salade ?
Alors, on a ramassé de la violette, feuilles de violette qui sont très mucilagineuses. Qu'est-ce qu'on a ramassé ? Du lierre terrestre. L'ail des ours qui est très aromatique.
Il n'y avait plus de fleurs.
Non, presque plus, ouais. Ben, ah non, violette, il n'y a plus du tout de fleurs. Parce que ouais, coucou, il y a.
On voit des coucous. La feuille de coucou aussi. Du lamier.
Du plantain. Lancéolé. Et plantain majeur, les feuilles plus larges.
Du pissenlit.
De l'oseille sauvage.
Ouais, ben,
je crois qu'il y a deux feuilles.
De l'ampsane.
Oui, le
en forme d'éperon.
Ah oui, juste.
De la lierre.
Un peu de feuilles de framboisier et de ronce. Des fleurs de lierre terrestre. Du gaillemot. Je crois qu'on a fait le tour.
Tout ça, ce sera mélangé dans la salade, alors.
Voilà, on va cisailler. On va la laver, cisailler.
Et tu dis que d'oiseaux, ça.
Et assaisonner avec une vinaigrette.
Non, ça veut dire que tu as des fleurs jaunes.
Ah non, la mienne, j'ai la lierre dans la tête.
Alors Hélène, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là ?
Alors là, je suis en train de mettre deux feuilles de consoude l'une contre l'autre, dos contre dos, parce qu'il y a des petits des petits crochets qui font comme un scratch. Et les feuilles de consoude se mangent comme un peu comme des filets de poisson. On dit filet de poisson parce que ça a vraiment un net goût de fruits de mer. Et ensuite, une fois que les feuilles seront collées deux par deux, je vais les immerger dans une petite pâte à crêpes légère que je ferai cuire ensuite dans une poêle avec très très peu d'huile, une bonne petite huile d'olive. Et recto verso pendant quelques minutes.
Ça fait un peu comme un... On va écouter.
Voilà.
Vous les écrasez au rouleau et ça fait un peu comme du velcro.
Voilà, c'est exactement ça. Et il y en a pour s'amuser qui disent que c'est l'origine du velcro, justement. Alors on essaye de mettre deux feuilles à peu près de la même taille. Et à la dégustation, c'est surprenant parce qu'on a l'impression de manger des petits filets de poisson végétaux. Voilà. Avec simplement un petit peu de sel et un petit peu de citron. Et c'est parfaitement délicieux. Voilà.
Est-ce que vous pourriez me décrire une feuille de consoude pour qu'on sache un peu à quoi ça ressemble ?
Alors, une feuille de consoude, c'est une feuille qui est lancéolée, c'est-à-dire qui a un peu la forme d'un fer de lance, qui est assez longue, environ... Il y en a de toutes les tailles, mais celles que je ramasse, elles sont plutôt jeunes. Et elles font environ 20 cm de long. Voilà, 20 cm de long sur 5-6 cm de large. Et voilà.
On goûtera ça tout à l'heure, alors.
On va goûter ça avec plaisir, parce que la première fois que j'en ai fait, moi, c'était un test. J'avais trouvé une recette quelque part dans tous mes livres de plantes. Et je m'étais dit, j'en ai au jardin, je vais essayer. J'en ai préparé 4 feuilles, c'est-à-dire 4 fois 2. Non, 2 fois 2. Et je me suis dépêchée d'aller au jardin pour en rechercher d'autres parce que c'était trop bon. Voilà.
Merci, Hélène.
Ouais,
c'est complètement fou.
Incroyable.
C'est fou, c'est iodé.
C'est vrai. Pourtant ramassé au bord d'un chemin.
Très délicat, ouais. C'est vrai. Ouais. Pourtant pas de marée à proximité. Donc celles-là, elles sont mises par terre.
Vraiment surprenant.
C'est délicat. Apparemment, il faut les presser un petit peu pour que les poils accrochent.
Je crois qu'elle les passe au rouleau là-bas.
Ah, carrément au rouleau. Ah ouais, donc je vais les reprendre toutes une par une. Comment ? C'est dans le sens ? Je crois qu'elles étaient dos à dos, face à face, c'est dos à dos en fait.
Oui, c'est parce qu'il y a le côté qui accroche là.
Ah, le gris, d'accord. Ok, je vais
l'enlever. C'est pas grave.
C'est comme ça qu'on apprend mieux.
C'est trop, trop bien. Attention parce que les.
Alors, Claire, qu'est-ce qu'il va y avoir au menu de ce repas cueillette ?
Alors, on va faire une petite omelette d'épierres et d'ail des ours. On a des asperges en train de cuire avec des bourgeons de berce. Et la salade sauvage. Donc voilà. Il y a pas. Il faudra voir à la fin, quand on aura tous mangé. Ah si, des beignets de consoude aussi. On a décidé.
Une spatule, oui.
Alors, on y va.
Bonjour, je m'appelle Hélène Dubosc.
D'où est venue cette connaissance et cette passion pour les plantes sauvages ?
Eh bien, je crois que ça remonte à ma petite enfance où je vivais à la campagne en Savoie et où j'étais tout le temps dans les ruisseaux, dans les forêts, dans la nature. Et je pense que Sans le savoir vraiment, j'ai enregistré, malgré moi, les formes des plantes sans savoir leur nom à cette époque-là.
Du coup, tu vas cueillir assez régulièrement ou c'est chaque fois que tu vas te balader? Comment ça se passe exactement pour toi, la cueillette?
Alors, la cueillette, elle se passe principalement au printemps, mais pas seulement, parce que je cueille aussi des plantes qu'on dit médicinales. Elles le sont en réalité un peu toutes. Personnellement, je ne connais pas la composition des plantes. Je sais simplement que déjà, ramasser une salade sauvage au printemps, ça parle un peu aux cellules profondes. Et toutes les personnes que j'emmène à cette époque-là me disent la même chose. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps qui est très particulier, comme si on absorbait quelque chose déjà de vivant et de très puissant d'une manière instantanée à travers ce qu'on mange. Une fois qu'on a fait la cueillette, on fait un tri et puis on déguste ensemble, voilà.
Ah, par exemple, dans une cueillette de printemps de salade sauvage, on peut ramasser quoi alors?
Alors, il y a toute une liste en réalité qui se trouve dans le voisinage immédiat de l'endroit où j'habite, parce qu'il y a d'autres plantes qui poussent plutôt en bord de mer, des choses comme ça auxquelles que j'ai pas accès. Là, alors je peux citer le mouron blanc des oiseaux, le gaillet mou, les feuilles de violette qui sont très riches en vitamine C, les jeunes pousses d'ortie, les jeunes pousses de ronces, la stellaire holostée qui est une petite plante qui fait comme des petites étoiles quand elle est en fleur, des petites étoiles blanches et qui pousse en grande quantité le long des chemins, l'oseille sauvage, la porcelle enracinée et qui porte le nom de groin d'âne. Bien sûr, les pissenlits, la doucette sauvage, la mâche sauvage, voilà.
Ça fait beaucoup de choses finalement qu'on peut trouver comme ça.
Ça fait beaucoup de choses. On peut faire une liste au moins d'une quinzaine ou d'une vingtaine de plantes qui sont tendres au printemps. Et le printemps, ça peut aller selon les années. Ça peut aller de fin janvier à mi-mai. Après, c'est dès que les plantes développent leurs tiges, les feuilles soit disparaissent, comme c'est le cas pour la cardamine des prés, je crois que c'est une plante qui s'appelle les Saint-Georges et qui sont des petites plantes un peu roses qui restent comestibles même quand elles sont en fleurs. Mais par contre, à ce moment-là, il n'y a presque plus de feuilles et ça a un goût de cresson. Ça a un goût assez prononcé, assez piquant, poivré un petit peu.
Et est-ce qu'après l'été, tu fais la cueillette des baies sauvages?
Les baies, c'est à l'automne. Hein. Excuse-moi, Benoît, mais les baies, c'est plutôt à l'automne.
Je ne suis pas un spécialiste.
les baies, par exemple, il y a les mûres, bien sûr. Il y a les aubépines. Et les aubépines, c'est les petits fruits rouges qu'on appelle aussi des poires d'oiseaux et qui ont les mêmes propriétés que les fleurs d'aubépine et les feuilles. Quand on cueille des fleurs d'aubépine, on peut cueillir les feuilles, elles ont les mêmes propriétés. D'ailleurs, c'est assez difficile de cueillir les boutons de fleurs d'aubépine sans cueillir la feuille qui vient avec. Mais si on rate ce moment-là, qui est très court en réalité, très court, ça se joue sur, selon l'exposition des arbustes, ça se joue sur une semaine. Si on vient avant, les boutons sont trop petits. Si on arrive après, les fleurs sont déjà développées et les pétales tombent. D'ailleurs, tu étais avec moi, tu as bien vu, c'était déjà un petit peu tard quand on a cueilli.
Pour les branches, hein, c'est
un super adoucissant.
Nathalie, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de cueillir là?
Alors là, on est en train de cueillir l'aubépine.
Donc c'est une super plante pour le cœur qui régule la tension, aussi bien l'hypotension que l'hypertension. Elle est autorégulante. Et c'est une. On cueille donc les sommités fleuries entre boutons et pistils roses. Pistil noir, donc là c'est ça va, mais souvent sur les bouquets on a différents stades d'évolution. Donc voilà, il faut au moins qu'il y ait encore des boutons non éclos quand le pistil est noir, sinon les pétales tombent et on perd les propriétés de la plante.
Et du coup, ça se consomme comment alors ?
Alors ça se consomme en tisane, on fait sécher. C'est une plante qui sèche facilement. On peut le mettre en cagette dans un endroit bien aéré. Et à l'abri de la lumière. Et après, on peut l'utiliser pendant tout au long de l'année pour faire des tisanes. Et c'est une plante aussi très apaisante. On peut l'associer au tilleul, à la lavande, à la mélisse, des plantes qui calment. Voilà.
Ça, c'est les boutons. Ça s'appelle aussi les boutons, mais on est plutôt les bourgeons.
Ah bon, on n'a pas le même langage à Villefranche que dans les montagnes, alors, les Beaujolais. Chez nous, ce que tu appelles boutons, mais pour les feuilles. Hein.
Si on a envie de commencer à s'intéresser au monde végétal, à connaître les plantes, d'abord de les reconnaître et puis peut-être de les goûter parfois, quelle est la meilleure approche ? Être accompagné par quelqu'un ? Commencer par les livres ?
Oui, je pense vraiment qu'il faut être accompagné par quelqu'un. Parce que déjà, quand on n'a aucune connaissance, on va hésiter à goûter. Et puis c'est préférable que non. Qu'il faut pas goûter, sans que quelqu'un ait pu dire. Ou alors, bon, on goûte des choses qu'on connaît depuis l'enfance. J'ai sous les yeux là des fleurs de trèfle. On sait qu'il y a un petit bout sucré. Ou les fleurs de coucou, par exemple, il y a un petit bout sucré. Et tous les enfants font ça quand ils ont vécu dans la nature. Il n'y a pas de danger du tout. Mais il y a quand même des plantes qui sont pas du poison véritable, mais qui peuvent provoquer des allergies. Et on se demande ce que c'est. Donc, il vaut mieux être accompagné de quelqu'un qui s'y connaît un peu, ou bien.
Il y a des plantes qui se ressemblent aussi, dont certaines sont comestibles, dont toxiques.
Voilà, il y a des plantes qui se ressemblent, et il y a des plantes, je pense à une plante en particulier qui fait... C'est une renonculacée, c'est une plante qui fait des fleurs jaunes d'or qui ressemblent à des boutons d'or. Et les livres de botanique disent que c'est une plante dont on peut manger les feuilles tant qu'il n'y a pas la fleur, parce qu'après ça devient toxique. Moi, dès que je vois le mot toxique, je dis on n'y touche pas. Voilà, c'est préférable, parce qu'on n'en est pas à vouloir manger n'importe quoi en se disant oh ben, c'est peut-être pas toxique. Non, 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 non. Et puis, il y a des feuilles, dans notre région, là, il y a des digitales qui ont des feuilles qui ressemblent énormément aux feuilles de consoude, sauf que ça ne pousse pas aux mêmes endroits. Mais ça ressemble beaucoup, donc il vaut mieux être tout à fait sûr avant de lancer dans cette aventure de manger des choses. Après, connaître les plantes, c'est bien d'avoir une flore. C'est bien, au départ, si on veut vraiment consommer des plantes printanières, être accompagné de quelqu'un qui a l'expérience de ça. Et puis après, c'est la pratique, la pratique, la pratique. C'est beaucoup de pratique. Pour une première balade, connaître et retenir trois plantes déjà, savoir les reconnaître à coup sûr, pour une première balade, c'est déjà pas mal.
Il y a deux écoles, on dirait, hein ?
Ouais, ouais, il y a deux écoles.
Il y a l'école Bouton et l'école...
Pistil Rose.
Pistil Rose, c'est-à-dire ouais. À peine ouvert, en fait.
Ouais. Moi, je suis l'école Bouton Enflé. Et je peux même pas dire
pourquoi. Ah, c'est même pas Bouton, c'est Bouton Enflé.
Ouais. Tu vois, là, t'as les tout petits bien jaunes. Et puis, quand ils sont enflés, ils commencent à blanchir. Donc, pour moi, c'est ceux-là les meilleurs. Mais après, bon, c'est un peu difficile de dire c'est ce qu'il y a de meilleur quand on voit la quantité qu'il y a sur un arbre, quoi. Et puis qu'on sait que la plante a vraiment des bonnes propriétés aussi. Donc voilà, mais ouais, chacun sa méthode.
Qu'est-ce qui vous a transmis, vous, ce savoir?
Alors, bah, c'est Belle Hélène, en partie, et puis je crois que j'ai toujours été attirée par les plantes.
Ah, tu peux faire ça avec ton fleur?
Ça a toujours été comme ça, l'idée de soigner naturellement, d'éviter tout ce qui était chimique. Mais depuis petite, hein, je faisais mes petites salades déjà... dans le jardin de ma mère, quoi. Et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré Belle Hélène et c'est un peu comme si j'avais rencontré Dieu, quoi. Pour la première fois, j'ai eu envie d'apprendre et d'ouvrir des livres. Donc voilà. Et puis ça fait plus de 10 ans maintenant que je cueille. Avec ma Belle Hélène, avec Nathalie, avec d'autres personnes avec qui je transmets, je partage. Voilà, quoi. Mais c'est un réel plaisir chaque année et tous les ans, on peut découvrir une nouvelle plante, en fait. Il faut vraiment y aller doucement pour être sûr de bien se rappeler les noms, les propriétés, pour être assez sûr de ce qu'on fait. Et voilà. Et puis, je pense que je peux encore apprendre pendant 20, 40 ans. Ça ne me dérange pas. En essayant de ne pas oublier les autres.
C'est-à-dire?
Bah, de ne pas oublier ce que j'ai appris en commençant, quoi. De me rappeler toujours la propriété de l'aubépine, la propriété du millepertuis, l'aquilée millefeuille, de tout, quoi. Savoir les stades, où est-ce qu'on cueille, si on cueille en fleurs, si on cueille en boutons, quand est-ce que c'est la période, quand est-ce que c'est le meilleur. Et voilà, peut-être qu'un jour je me mettrai même à cueillir avec la lune, mais j'en suis pas encore là. Chaque chose en son temps.
Et Hélène, il a fallu lui demander ou c'est elle qui est venue à vous? Ah, comment non. Ça s'est passé?
Belle Hélène, c'est une dame que j'ai rencontrée par d'autres amis et on en a discuté tout de suite. Le lendemain, j'étais chez elle avec un sac, plein de petites plantes dans les... dans mes petits sacs, je les ai ouverts, on a déballé ensemble et puis je me suis plus jamais arrêtée et puis j'ai plus jamais quitté ma Belle Hélène. Donc voilà. Non, elle est très ouverte, au contraire, elle cherche vraiment à transmettre à tout le monde. C'est son but aussi, mais avec toutes ses connaissances, parce qu'il n'y a pas que les plantes avec Hélène. C'est ça qui est génial avec les personnes qui sont plus âgées que nous, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous. Donc voilà, on peut apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps.
En quoi ces savoirs sont importants?
Eh bien, ces savoirs sont importants parce qu'il faut transmettre, en fait. C'est des vieilles choses qu'on n'apprend plus, c'est des choses qui sont interdites. Hein, parce que cueillir comme ça, dire bon, l'aubépine, c'est bon pour le cœur, on n'a pas le droit de le dire, parce qu'on n'est pas médecin. Et que du coup, si on n'a pas une jolie petite sorcière dans notre village, c'est difficile de connaître les plantes.
Eh bien, justement, c'est amusant que vous utilisiez ce mot de sorcière. Parce que j'ai pensé à ça, justement, en vous voyant cueillir ce matin, en vous voyant cueillir cet après-midi. J'avais l'impression d'un beau groupe de sorcières qui étaient en train de... Mais des gentilles sorcières, hein, pas
oui,
les...
Oui, on veut vraiment que faire le bien, ça c'est sûr. Et puis, des fois, ça fait un peu mal, hein. De se soigner avec des plantes, c'est pas forcément bon. Si vous voulez nettoyer le foie avec des tisanes d'artichaut, faut s'accrocher, ça fait mal, quoi. Donc voilà, mais ouais, c'est des gentilles sorcières qui veulent faire le bien, qui font attention à leur manière de cueillir, qui font attention à là où elles cueillent. C'est l'avantage quand on fait les choses pour soi, en fait, quand on le fait pas pour des labos. Quand on cueille pour un labo, on a tendance à cueillir là où il y en a beaucoup, même si c'est au bord de la route. Les laboratoires prendront pas plus soin des plantes parce qu'ils savent même pas quand est-ce qu'elles ont été cueillies quand ils les mettent dans les gélules. Alors que nous, chaque année, on refait notre stock, on regarde qu'est-ce qu'on s'est beaucoup servi, est-ce qu'il faut qu'on en recueille, est-ce que telle ou telle plante ne sert pas beaucoup, pour éviter justement de tout abîmer, quoi.
Et vous, vous êtes quel genre de cueilleuse? C'est quoi votre prénom?
Séverine.
Séverine, est-ce que vous êtes une sorcière, vous?
Oh. Quand je suis en colère, oui, sinon je suis une fée, quand je suis de bonne humeur.
C'est pour préparer des potions, non?
Non, mais j'adore les plantes, j'adore la nature. Et j'ai pas de très très grandes connaissances, mais j'ai un beau ressenti. J'aime bien les choses, tout ça. Et puis j'ai beaucoup de copines qui m'apprennent. Hélène, Claire, tout ça, qui me préparent les potions les plus compliquées. Et moi, j'aime beaucoup les jus, consommer les plantes sauvages.
Donc c'est des jus crus.
Voilà, les jus crus, donc les pissenlits, la consoude, les choses très...
Le plantain,
voilà, les choses vraiment très basiques, la mauve, les trucs que je trouve vraiment tout autour de chez moi, dans ma cour, dans mon jardin, que je consomme.
C'est une sorte d'amphithéâtre d'université naturelle ici, alors.
Quand ouais. Tout le monde est le professeur de tout le monde, en fait.
C'est ça. Voilà. Donc quand je viens dans les montagnes, et ben, effectivement, là je suis à l'école de mes copines et c'est elles qui m'apprennent, qui me font découvrir les plantes voilà, que je n'ai pas chez moi dans ma Bresse et qui sont ici. Donc voilà, on partage. Puis après, bon, on se fait des journées aussi préparation, tout ça, où on en discute. Et,
Oui, c'est vrai qu'on transforme aussi.
Envie d'arracher là-dedans, là.
La transformation, c'est magnifique. Alors que ça peut être des tisanes ou aussi beaucoup les baumes, les produits de beauté.
Alors, c'est quoi votre secret pour être les plus belles au naturel?
On se regarde pas dans la glace. Hein.
Le secret beauté naturel, c'est de ne pas se regarder.
On se regarde que dans l'eau de la rivière.
Non, par rapport aux plantes.
Oui, par rapport aux plantes.
Bah, une plante interdite qu'on n'a pas le droit de se servir. Par exemple, le calendula, qui est une plante super hydratante, qu'on peut faire macérer dans de l'huile pendant 21 jours. Et après, bah, on sert de l'huile, soit on y ajoute de la cire d'abeille pour avoir plus une pâte qu'une huile. Et voilà.
Et pourquoi c'est interdit le calendula?
C'est un monopole de laboratoire, si je dis pas de bêtises. Il faudrait demander à Nathalie, elle sait mieux les termes dans ces cas-là d'interdit. Je sais plus si en usage personnel on a le droit.
De quoi?
Le calendula, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de le cueillir?
Ah oui, ben, parce qu'il y a une liste, la législation en France n'autorise que 148 plantes à usage traditionnel et populaire. Ouais. Qu'on a le droit de vendre sans avoir le diplôme de pharmacien ou d'herboriste.
Mais on peut les cueillir pour son usage personnel, alors?
Oui, voilà. Sans, on n'a pas le droit de les vendre. Après, on peut les utiliser à usage personnel.
140 sur 3000, enfin sur 5000 plantes, c'est...
Personne qui t'accompagne, il y a toujours un petit groupe femmes du coin avec
des jeunes femmes qui se sont intéressées aux plantes, qui ont fait des balades avec moi d'une manière très très amicale, et y compris Nathalie qui elle-même a lâché son métier de laborantine pour faire une école des plantes à Montmoreau dans le Jura. Et qui a commencé à développer une petite entreprise de collecte de plantes qu'elle fait sécher, qu'elle transforme, avec lesquelles elle fait des pestos ou des vinaigres aromatisés, ou voilà, des choses que font les gens qui collectent des plantes pour s'en servir ensuite, des baumes.
Alors, puis qui est ce petit groupe qui soit agrégé autour de toi et que... J'ai l'impression que ça s'est fait un peu sans le chercher et sans naturellement.
Sans rien calculer. C'est des jeunes femmes avec lesquelles je passe des moments très sympathiques et qui sont un peu, on peut dire, comme une petite famille de comme une parce qu'on navigue un peu dans les mêmes eaux sur avec des idées similaires. Avec personnellement, j'aime transmettre les choses que je connais, que ça reste pas, pour moi, ça ne m'appartient pas. Ça m'est venu d'ailleurs et je passe le relais. Et quand je vois que des jeunes femmes sont capables elles-mêmes de guider des groupes et de continuer à faire passer le relais, c'est ce qui me réjouit le plus en réalité, plus que la connaissance proprement dite.
Derrière... cette démarche d'aller cueillir dans la nature, il y a bien sûr la démarche de ne pas tout prendre, de simplement prélever un peu, de laisser juste ce qu'il faut.
Bien sûr. Quand je guide un groupe ou même seulement une personne, quelquefois ça m'arrive, je lui recommande de ne pas cueillir une plante si elle est isolée. De ne pas la prendre, de la laisser fructifier. C'est vraiment des êtres vivants à part entière.
Quels sont les commandements de la cueilleuse alors ?
D'en laisser. On cueille 10% normalement. Sur un arbre, on prend 10%, on laisse le reste, que ce soit même au niveau des salades sauvages, pour les fleurs, pour tout. On prend que 10%. Et on fait attention à ce qu'il y a autour. On ne cueille pas dans les vignes, on ne cueille pas au bord des champs de maïs.
Cause des pesticides ?
À cause des pesticides, oui. Et surtout, on en laisse. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'en laisser.
Est-ce que le premier bienfait, c'est pas tout simplement d'être là dans la nature, sous le soleil, dans le vent?
Si, bien sûr que si.
Et puis, ça, c'est le côté antidépresseur.
Ça va au-delà de ça, hein. C'est le côté se faire du bien avec des choses simples, sans passer par un supermarché, sans être abîmé par les bruits, des choses, les bruits des voitures, le bruit des gens qui crient, le bruit de la ville, quoi. Et ici, on est vraiment en silence, donc on se retrouve bien avec nous-mêmes. Quand on cueille, on est obligé de cueillir doucement pour ne pas se faire de mal. Enfin, il y a beaucoup de choses, ouais. On réapprend à vivre doucement, quoi, avec un autre rythme.
Est-ce que c'est un acte politique de cueillir ?
Non, pas du tout. Non.
C'est un acte de résistance ?
Ouais.
Alors c'est politique ?
Non.
Pas politicien, politique.
On pourrait le voir comme ça. Hein. Moi, le premier plaisir que j'ai quand je prépare une tisane pour quelqu'un, c'est de savoir qu'il ne va pas passer par la pharmacie et que pour se faire du bien, il n'aura pas besoin de travailler plus ou devoir dépenser une grosse somme d'argent. Et voilà. Et oui, c'est vrai que j'ai un petit plaisir à ça. Donc si en plus, je peux apprendre aux gens à être autonomes, c'est encore mieux.
Toi, j'ai compris que tu en mangeais, des plantes, mais est-ce que tu en transformes ? Est-ce que tu en gardes pour te soigner ?
Personnellement, j'achète pratiquement jamais de d'infusettes. Je collecte des plantes pour moi, que je fais ensuite en tisane à la maison, et que je conserve dans des boîtes à chaussures, dans des sacs en papier de récupération. Voilà. Mais toutes les plantes qui m'environnent, je connais un endroit où il y a un très grand tilleul. Par exemple, moi, tous les ans, je guette le tilleul, parce que là, c'est pareil, la floraison est très courte. Entre la fleur et le petit fruit qui se développe au centre, c'est un temps très, très court. Donc, je surveille. Sinon, je fais des pestos d'ail des ours, des pestos de plantain ou d'ortie pour ma consommation personnelle. Et puis, des feuilles de frêne. Et il y a un mélange que, personnellement, j'ai appelé la tisane des centenaires. C'est un mélange à part égale de feuilles de cassis, de feuilles de reine des prés, de fleurs de reine des prés, de feuilles de menthe et de feuilles de frêne. Voilà. Et ça fait une très bonne tisane et qui est censé nous faire arriver centenaire sans aucun problème de santé.
On se donne rendez-vous dans quoi alors ? Dans 35 ans ?
Voilà. Ah ben j'aurais déjà dépassé la date limite alors moi. Dans 35 ans. Il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent aux plantes, hein. De plus en plus. Même si tous les laboratoires pharmaceutiques font barrage pour s'approprier les plantes. Hein. L'exemple du purin d'ortie, par exemple, c'est quand même, un des exemples qu'on peut citer. Après, voilà, moi j'ai la chance de vivre quand même encore dans un pays un peu vert, mais je m'aperçois bien qu'il n'y a pratiquement plus de fleurs dans les champs. Il n'y a plus de fleurs, toutes les fleurs, toute la flore de mon enfance, hein, je ne suis pas si vieille que ça, elle a pratiquement disparu.
à part certains prés où c'est presque un miracle de trouver une grande sauge bleue, par exemple. Mais le mouvement des coquelicots, là, qu'on puisse voir réapparaître des coquelicots dans les champs, c'est quand même magnifique, ça. C'est une résistance, hein. Personnellement, moi, j'ai collecté pas mal de graines de coquelicots et je compte bien les semer le long des chemins.
Merci, Hélène.
Ouais, merci.
Merci à Hélène, Claire, Nathalie et toutes les personnes qui nous ont chaleureusement accueillis pour cette journée. Cueillette sauvage dans le Haut-Beaujolais, un documentaire de Benoît Adam pour Radio Calade. Vous êtes toujours à l'écoute de Calade, c'est l'émission Vagabondage. Et justement, après ce beau vagabondage dans les prés et les forêts du Haut-Beaujolais, on va faire un petit détour par la librairie des Marais à Villefranche pour retrouver Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour Benoît.
Pour ce mois de novembre, alors en lien au départ avec notre sujet un peu sur les cueillettes sauvages, on va rester un tout petit moment sur ce sujet avec une sélection de 3 livres.
Tout à fait. Donc, pour faire un petit peu le lien, alors d'abord un lien avec un personnage que tout le monde connaît, qui est Pierre Rabhi, qui est un petit peu notre conscience aujourd'hui quand on parle nature, écologie, qui vient de sortir. Alors, c'est vrai qu'il a des publications assez régulières, mais la dernière est très belle. Elle est aux éditions de l'Aube, donc il y a toujours une belle illustration qui est « J'aimerais tant me tromper ». Donc, il a bientôt 80 ans, Pierre Rabhi, et il revient sur son parcours, il revient sur ce qu'il a fait, il revient sur ses envies qu'il a encore, sur les alertes, évidemment, qu'il voudrait encore lancer. Et c'est un livre à lire, à relire, après avoir lu, évidemment, Le Colibri et plein d'autres. Et c'est surtout peut-être un livre à offrir.
Donc c'est Pierre Rabhi, j'aimerais tant me tromper.
Aux éditions de l'Aube. Un deuxième, parce que ça a été évoqué dans le reportage, et moi je sais que je l'achète classiquement toutes les années, c'est le calendrier lunaire de Michel Gros. Attention, Michel Gros, hein, parce qu'il y a calendrier lunaire et calendrier lunaire.
C'est pas n'importe lequel.
Et dedans, vous avez tout.
Du coup, là, c'est un peu le libraire qui dit « Faites-moi confiance, ma petite dame, j'ai le même à la maison ».
Alors, complètement, hein, voilà, complètement. Michel Gros, alors, il faut l'acheter pour le jardin, il faut l'acheter quand vous allez chez le coiffeur, parce qu'on... Il y a plein de choses. Et dedans, on a tout, hein, voilà. Vous êtes parés pour les cultures et puis pour votre vie quotidienne, etc. C'est à avoir du 1er janvier au 31 décembre.
Pour être attentif au cycle lunaire.
Alors, cycle lunaire, et puis pour s'organiser en fonction. Très important. Et puis pour terminer, puisque le reportage était en Beaujolais, est sorti un livre qui est plus sur Villefranche, mais Villefranche, c'est sur Saône et en Beaujolais. Un livre de Philippe Branche et de Jean-Philippe Ray aux éditions du Poutan, Villefranche-sur-Saône, une histoire en Beaujolais. Ça nous manquait. Il nous manquait un livre vraiment sur l'histoire de Villefranche, très documenté, avec une iconographie très... très bien, très, très organisé. Et c'est un super livre à avoir pour, encore une fois, se replonger dans l'histoire de Villefranche. Il y a un super panorama de la rue nationale, en particulier immeuble par immeuble. Donc, pour vous, pour les fêtes de fin d'année, pour se faire plaisir, pour connaître l'histoire de Villefranche, passez pas à côté, il est très, très bien.
Et c'est aux éditions du Poutan.
Tout à fait.
Alors, on va continuer cette sélection de Bertrand, notre libraire préféré à Villefranche, et dans tout le Beaujolais, que ce soit le Beaujolais vert ou le Beaujolais, avec alors une sélection cette fois-ci de livres.
Oui, parce que ça y est, nous attaquons ce que nous on appelle en librairie la semaine et le mois des prix littéraires, qui classiquement commence avec le Goncourt, et puis après on a le Renaudot, le Fémina, etc., etc. Donc évidemment, les libraires, on n'est jamais content avec les prix annoncés par ce cher monsieur Pivot et consoeur. Alors moi, mon petit Goncourt à moi, en ce mois de novembre, c'est le Ghetto intérieur. J'ai été extrêmement frustré qu'il ne soit pas dans la liste finale du Goncourt. C'est un livre de Santiago Amigorena chez POL, Le Ghetto intérieur. C'est un livre absolument magnifique, une émotion extrême, autour d'un Polonais qui part vivre en Argentine dans les années 20, qui va couper court un peu avec la famille, avec sa mère. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, arrive le ghetto de Varsovie. Et évidemment, la famille est dans le ghetto et lui, il est en Argentine. Et va commencer pour lui un retour dans ce qu'a été sa vie, dans ce que doit subir sa famille, en particulier sa mère. Et il va véritablement entrer dans une sorte de ghetto intérieur, de se couper un peu du monde, de sa famille. C'est de toute beauté. Et alors, il y a un deuxième, ça serait un petit peu mon Goncourt étranger. Ça n'existe pas, mais enfin bon, voilà.
On prend les libertés que l'on veut.
Alors, bon, malheureusement, désolé, c'est un peu sur la même thématique. C'est un livre un peu épais, parce qu'il fait près de 900 pages, mais c'est un livre absolument extraordinaire, une très, 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 très belle écriture. C'est un livre de Chris Kraus, La fabrique des salauds. Et on suit une famille, en particulier deux frères, laitons, mais des laitons d'origine germanique. Et on les suit tout au long du XXe siècle, et évidemment, surtout à partir des années 20-30, et évidemment avec le drame du nazisme. Ça se lit de manière extrêmement bien, extrêmement forte. Bravo, voilà. Après, le mois de novembre est un mois où on aime bien lire, auprès du chauffage. Donc ça tombe bien, parce qu'il y a 900 pages.
Il y a de quoi déborder jusqu'en décembre.
Et pour finir, un peu la place à la bande dessinée, avec, j'allais envie de dire, super bien, le dernier Davodo. Donc Davodo, on le connaît pour les ignorants, on connaît pour plein de choses. Et chez Futuropolis, il sort Les couloirs aériens. Imaginez un type, la cinquantaine bien passée, et c'est un peu le moment du blues. Sa femme est partie, on ne sait pas bien où, ses enfants sont partis, il y en a un à Montréal, pas de boulot, et bon, il est hébergé chez un pote dans une ferme du Jura. C'est un peu la loose à tous les étages, mais entre le scénario, l'illustration, c'est toujours génial. Donc, Les couloirs aériens, Davodo, chez Futuropolis. Et puis, pour les enfants, pour les cadeaux de Noël, mais je dirais aussi pour les grands, le nouveau, Rebecca d'Outremer. Rebecca d'Outremer, c'est une illustratrice, pour moi, c'est l'une des plus grandes illustratrices de France, voire de Navarre. Elle avait fait l'année dernière Jacominus Gainsborough, ce petit lapin à la patte vrillée. Et là, elle revient avec un nouvel album, Midi Pile, tout en découpage. Ça rappelle pour ceux qui connaissent le petit théâtre de Rebecca d'Outremer. Et c'est magnifique, c'est vraiment un livre à s'offrir, à offrir. Et c'est surtout un livre à garder à vie.
Il est vraiment très, 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 très beau. C'est vraiment un magnifique ouvrage.
Tout à fait, je confirme. Donc voilà, encore de beaux moments à partager entre lecture beaujolaise et du monde.
Merci Bertrand pour cette belle sélection d'ouvrages. Et aujourd'hui, on était directement à la librairie. Alors c'est toujours un plaisir de faire ça, comme ça, de se retrouver au milieu des livres. D'ailleurs, pour notre vagabondage du mois de décembre, on se donne rendez-vous à la librairie pour une sélection de cadeaux à offrir aux petits, aux grands, aux gros et petits lecteurs pour Noël qui approche à grands pas.
Avec plaisir, à bientôt.
Au revoir. Vagabondage, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Calade, www.radio-calade.fr. Bonne continuation à l'écoute de nos programmes. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.